I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ouais, Mathieu. Écoute, je pensais pour le prochain épisode qu'on puisse faire qu'on pourrait se tourner autour du thème du mental. Ouais, en ce moment, c'est un peu à la mode, là, mais ça fait bien longtemps que c'est un sujet qui est très important dans le foot. Et puis surtout, en ce moment, j'ai l'impression qu'on parle du mental comme un sujet fourre-tout. Écoute, j'aimerais bien te proposer un nom et un prénom. En l'occurrence, c'est Denis Troche. Je pense que ça va te dire quelque chose, mais dis-moi si à la base ça peut t'intéresser.
Ah ouais, mais grave, non, ça m'intéresse vachement. Ah oui, Denis Troche, ça me parle, là, tu fais appel à de vieux souvenirs de jeunes supporters parisiens à la fin des années 90. Mais complètement, d'autant que je pense que ce serait un bon suivi de l'épisode qu'on avait fait il y a quelques mois sur la psychologie avec une application plus proche du terrain. Écoute, super intéressé, bah écoute, vois avec lui s'il est chaud, on sera, je pense, très heureux de le recevoir.
Bah top, allez, je l'appelle et je te tiens au courant. La bise. Denis est OK, il nous rejoint mardi prochain à 10h dans les locaux. Donc voilà, passe un bon week-end et on se voit mardi. Ciao.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football. Le podcast hors terrain de sous-foot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille-Palette.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Alternative Football. Monsieur Cissé, comment ça va ?
Salut. J'ai trouvé une bonne place, une bonne position, parce que c'est pas évident quand même.
C'est vrai qu'à cause de Kamel, on a dû changer la disposition dans le studio, donc on reprend nos marques. C'est comme quand tu changes de composition,
ouais,
de,
ouais, bon, on a des d'animation. On a des bons résultats, donc voilà, ça passe, mais quand même, faut s'adapter, c'est bon.
C'est marrant de commencer avec ça parce qu'on va un peu parler de conditionnement aujourd'hui notamment parce qu'on a le plaisir et l'honneur de recevoir Denis Troche. Bonjour Denis.
Ah merci, bonjour à vous tous.
Salut Denis, content que tu sois là.
Ah moi aussi.
Que tu aies enfin accepté notre invitation, ça fait 4 ans qu'on te demande de venir, à chaque fois tu es toujours overbooké.
Ouais, tous méritent.
L'émission existe depuis un an à peu près, mais ça fait effectivement 4 ans que Edouard lance les invitations.
Oui, attends.
J'aurais bien aimé être le premier, mais bon, je vois que je passe derrière.
Le premier pour parler d'un sujet très important et qui nourrit aussi pas mal de fantasmes et qui est souvent utilisé dans le décryptage du football, mais qui cependant est mal compris. Et c'est pour ça qu'on est très curieux de ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, c'est le mental. Alors, la tradition ici, c'est de commencer avec une problématique un peu comme à l'école ou dans les formations. La nôtre aujourd'hui, c'est footballeur, la tête avant les jambes, sous-entendu. Est-ce que la tête est plus importante que les jambes ? Alors, pour un peu amorcer le sujet, Denis, je te pose une première question. Qu'est-ce que c'est le mental ?
Ah, le mental, ce n'est pas quelque chose qu'on achète au commerce du coin, ça c'est clair et net. Le mental, c'est quelque chose qui est en nous, que l'on ne travaille quasiment pas. On va travailler dans le monde du sport et dans l'entreprise, la technique, la stratégie, la tactique, le physique. Mais le mental, c'est comme si c'était quelque chose à part. Pour autant, le mental va nous servir à tirer la quintessence de son potentiel général, mais aussi le maximum de sa technicité, donc de la précision. On va pouvoir aussi, grâce au mental, travailler sur le physique, pouvoir répéter les efforts un petit peu plus longtemps. Et sur le point stratégique ou tactique, c'est garder ce moment de lucidité qui va être prépondérant dans la réussite, quelle qu'elle soit.
Alors, tu as parlé effectivement de physique, de technique et de tactique. Tout ça, c'est des choses qui sont travaillées et retravaillées dans les clubs. Pourquoi historiquement, voire culturellement, le mental, on ne le travaille pas dans le foot ?
Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on pense que l'entraîneur aujourd'hui, l'éducateur, il est meneur. Donc, il a cette capacité d'emmener les gens à atteindre un objectif quelconque. on oublie que chacun a sa façon de faire qui est propre à lui-même, mais qui n'est pas forcément transmissible, ou quand on le transmet, ou quand on transmet ce mental et cette dynamique quand on est éducateur, on oublie que c'est pour que l'autre grandisse. Et on a plutôt envie de transmettre ce qui nous aurait fait grandir, nous, plutôt que de ce qui est spécifiquement le domaine de l'autre. Donc ça, c'est compliqué. Et bon, on va arriver à ça, puisqu'on est passé par des staffs où il n'y avait qu'une seule, des staffs qui n'existaient pas, du reste, à mon époque, ouais. Où il n'y avait qu'un entraîneur. On est passé à deux entraîneurs, un entraîneur après un adjoint, responsable des gardiens de but, un préparateur physique. Et on pense aujourd'hui intégrer, mais je ne suis pas non plus d'accord sur ce fait-là, c'est d'intégrer un préparateur mental ou quelqu'un qui s'occupe du mental en interne.
Pourquoi ?
Bah, tout simplement parce qu'on est conditionné par notre environnement proche. Et donc, on prend des émotions. Et la personne qui doit gérer ce mental ou avoir cette réflexion très neutre doit être à l'extérieur pour être le plus juste possible. Sinon, vous allez à l'entraînement, au match, dans les tribunes, et vous allez être impacté par l'émotion ou par les émotions ou l'ambiance qui règne autour de cette équipe. Et vous allez être impacté, et donc vous allez avoir un comportement qui ne sera plus du tout celui qui est nécessaire, comme un écho que vous devez transmettre de la personne. Et sinon, vous transmettez vos émotions. Et c'est très simple de transmettre des émotions, même si on veut protéger, même si on veut aider l'autre. Parfois, on transmet des émotions qui sont parfois toxiques.
Non, même un préparateur mental qui sait, qui devrait être costaud mentalement, s'il travaille dans un club, il subit l'environnement, bah, le côté toxique.
Alors, par la force des choses. Maintenant, ça, c'est mon point de vue. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça. Ça fait 12 ans que je fais ce métier dans des équipes, que ce soit des équipes d'entreprise, de sport, que ce soit le vélo, le rugby, le basket, le handball, le football. Et j'en suis arrivé à ça. Bien sûr que j'aimerais bien, et je forme des personnes à faire le même métier, j'aimerais bien qu'ils aillent dans des clubs respectifs. Pour autant, c'est pas légitime. Pour moi, c'est pas logique. C'est pas déontologique d'être en interne, parce que même moi qui suis plutôt expérimenté, je sais que je peux être impacté par ce qui se passe.
Tu parlais de ton expérience notamment avec Clermont en rugby, l'ASM, et tu disais que tu avais été les voir, je crois, deux fois en deux ans au stade.
Exactement.
Et tu parlais de choc émotionnel. En fait, dans le football ou dans le rugby, le choc émotionnel, il peut être hebdomadaire à chaque match, etc. Donc, c'est très important selon toi d'avoir cette froideur et d'être en dehors de la structure, c'est ça ? C'est la capacité de pas avoir le même angle.
Alors, pour beaucoup de raisons. La première des raisons, c'est que quand on fait ce métier d'accompagnant sur le plan mental, c'est soit parce qu'on en a besoin, soit soi-même, soit qu'on en pense que ça pourrait améliorer une personne ou une équipe ou un club. On va faire un transfert. Et on va essayer de prendre les joies, les plaisirs de ceux qui sont sur le terrain. Et à partir du moment où vous prenez les joies et les plaisirs et vous êtes content d'accompagner cette équipe, vous ne pouvez pas omettre le fait qu'il y ait des déceptions, de la tristesse et des contre-performances. Et quand on accompagne quelqu'un ou un club ou une équipe ou une personne, un joueur ou un entraîneur, on doit sortir de cette émotion qui est son environnement. Il vient vous chercher pour que vous soyez l'écho de ce qu'il est véritablement. Et donc, vous ne pouvez pas être, vous, chargé d'émotions. Je vous donne un exemple qui est très simple. Très, très simple. J'ai une de mes filles, quand elle était jeune, petite, elle s'est fait piquer par une guêpe. Et depuis, elle a peur des insectes. Et aujourd'hui, elle a plusieurs enfants, elle en a trois, et une de ses filles a peur des insectes. Des mouches, de tout ce qui vole. Qu'est-ce qui s'est passé ? La mère, qui est protectrice, qui aime son enfant, lorsqu'il y a un insecte qui vole autour de son enfant, qu'est-ce qu'elle va faire ? Avec la main, elle va chasser l'insecte. Ce qui est logique, la mère ayant peur, elle chasse l'insecte qui va vers sa fille. Aujourd'hui, plus maintenant, mais aujourd'hui, la petite a peur des insectes. À qui appartient la peur ? À la mère, qui a été transmise. La gamine, elle y est absolument pour rien. Donc vous imaginez, quelqu'un qui veut protéger, qui aime, va transmettre quelque chose qui n'est pas légitime. Voilà, donc c'est juste pour cette raison que je prends ce raisonnement.
Alternative football.
Il y a quelque chose que tu as dit lors de ta première réponse, c'est le mental influe sur la technique. À quel point ça peut influer? Est-ce que c'est marginal? Est-ce que c'est vraiment le 1% qui te permet de faire la différence?
Alors, peu importe. On se rend compte qu'une personne qui a des connaissances sur l'aspect mental va transmettre quelque chose aux autres qui vont grandir. Ça, c'est incontestable. Ça permet systématiquement, puisqu'on va transmettre quelque chose qui n'existait pas. Et ça va permettre aux gens de grandir. Maintenant, quel est le pourcentage que le mental a dans la réussite? Je n'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est que à l'issue d'une action, quelle qu'elle soit, que ce soit une carrière, que ce soit une compétition ou un geste technique, l'idée est de pouvoir se dire « je n'ai pas de regrets et je peux être fier de ce que j'ai pu faire ». Le mental va te permettre de tirer le maximum de cette technicité ou le maximum de cet engagé.
Comment ? Ou te plomber.
Oui, alors là, je parle positivement, mais bah, merci vrai. Edouard, tu as complètement raison. Parce que mais déjà, de savoir que ça peut de t'amener à ne pas avoir de regrets à l'issue d'une rencontre, d'une saison, d'une carrière ou d'une vie, c'est déjà pas mal. Et effectivement, pousser à l'extrême, c'est-à-dire que tout est bon, sauf quand c'est extrémiste. C'est-à-dire que toutes les valeurs que l'on nous inculque sont bonnes, sauf pousser à l'extrême. Être courageux, c'est bien. Trop courageux, c'est con. Être bon, c'est bien. Trop bon,
voilà. C'est con.
Oui, exactement, mais c'est ça. Donc il faut trouver, déplacer le curseur comme on pense être bien pour soi.
Il y a en ce moment, j'ai l'impression que c'est une tendance, c'est un sujet qui sort, mais alors que de tout temps, en fin de compte, ça a toujours existé, la dépression des joueurs, tu vois, est-ce que les joueurs ils ont le droit de se plaindre ou pas, on en parlait tout à l'heure. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu peux en dire?
Ça a été un sujet tabou, ça a été le premier sujet qui m'a permis de sortir du football. Je suis sorti du football il y a 12 ans maintenant. J'aurais pu continuer ma carrière d'entraîneur, mais j'ai pensé que je pourrais plus transmettre à ceux qui en avaient besoin que à des footballeurs, parce que même s'ils en ont besoin d'entraîner, de continuer à entraîner. J'avais déjà entraîné 23 ans, donc j'ai arrêté à 25 ans, donc vous allez comprendre le pourquoi. Je me suis rendu compte que qu'est-ce qui a fait que j'avais grandi dans la vie? Eh bien, ce sont des chocs émotionnels. Et des chocs émotionnels qui sont traumatiques. Hein. Faut pas croire que derrière ces chocs, il y a rien. Il y a quelque chose quand même qui laisse des traces positives parce que tu évolues. Ouais. Mais aussi, il faut savoir que tu as pris des coups. Lesquels? Alors, j'ai raconté ma vie, 3 secondes. Moi, je suis né dans les cités HLM du 9-3 ou de la banlieue parisienne. Et j'étais un peu voyou, quoi. Mais un jeune voyou de l'époque. Ça s'entend. Et donc, je trichais, je montais, je volais. Et un jour, ma mère m'a pris entre quatre yeux, j'avais 16 ans et demi. Elle m'a pris entre quatre yeux, elle m'a dit « Toi, mon fils, plus jamais de ma vie, je te croirai. » Depuis ce jour-là, j'ai arrêté de mentir, arrêté de tricher, arrêté de voler. Mais pendant quelques années, derrière ça, personne ne voulait me croire. Bah oui, parce que t'es comme ça. Donc, il s'est passé quelques années, je suis devenu joueur pro. À 25 ans, je me blesse. Sérieusement, le médecin me dit « Denis, c'est fini ta carrière. » Je rentre chez moi, je pleure pendant 6 heures. Ma femme rentre le soir et me dit « Oh, t'as une conjonctivite, Denis. » Le lendemain, je suis entraîneur. Je passe, le club, c'était le Matra Racing à l'époque, me donne un poste d'entraîneur. Mais j'ai arrêté mal. Je suis passé d'un état très égoïste ou égocentré comme joueur, parce qu'il faut ça, il faut être égoïste, il faut être égocentré quand on est joueur, c'est positif. Parce que pour tirer le maximum de son potentiel, il faut être centré sur soi. Et en moins de 6 heures ou 12 heures, je suis devenu entraîneur dans le même club, parce que le club m'a proposé ça, et je suis rentré dans l'altruisme, c'est-à-dire dans le don de quelque chose. Vous imaginez, vous êtes centré sur vous et que d'un seul coup, tous les repères que vous avez, vous devez changer et être dans ce fameux altruisme qui est de donner et de transmettre aux autres. Et on peut revenir, on reviendra là-dessus si vous voulez. Et ensuite, je suis devenu entraîneur et je me suis fait virer. J'ai compris que si tu restais à un endroit qui n'était pas le tien, l'endroit, le milieu te rejetait. Et c'est très bien, ça t'évite de mourir à l'intérieur. Donc plutôt que de mourir dans le football, j'ai compris que le jour où je me suis fait virer, il fallait sortir et définitivement et faire autre chose. Parce que déjà, il y avait une préparation des choses. Donc ce sont des chocs émotionnels qui sont traumatiques et qui peuvent amener à la dépression. Et très vite, quand j'ai commencé à faire ce nouveau métier d'accompagnant, j'ai commencé par le vélo, par le cyclisme. Et d'abord l'entreprise et après le cyclisme. Parce que je m'étais dit, pendant 3 à 5 ans, je ne touche pas au football. Je veux faire autre chose pour voir si j'ai la capacité. Est-ce que le concept que je mets en place, les outils que je vais transmettre, peuvent aider tout le monde, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les dirigeants d'entreprise, les sportifs de haut niveau, pour que ce soit ça. Donc j'ai testé ça. Et quand je suis sorti, j'ai commencé dans le monde du sport par une équipe de vélo. Et j'ai appris quelque chose, un truc qui est hors norme. Quand je suis arrivé comme accompagnant ou comme coach mental, si on peut dire, et là, dans cette équipe de vélo, cyclisme professionnel, qui fait le Pro Tour, le plus haut niveau, les joueurs, les coureurs me disent, ah oui, il y en a certains qui me disent, tiens, je suis dans l'ADEP. L'ADEP, mais l'ADEP, je ne connaissais pas ce que c'était. Et en fin de compte, c'est spécifique au vélo. C'est la dépression. Ils appellent ça l'ADEP. C'était spécifié, vulgarisé, en DEP. C'est l'ADEP. D'accord. Et quand on parle avec les cyclistes de l'ADEP, ils savent ce que c'est.
Tous.
Sans exception. Donc, sauf que ça, c'est resté dans ce milieu.
Donc c'est validé. Eux, ils peuvent être en DEP.
Ils n'ont pas le droit. Ils savent que ça existe
ils,
et que
ils
ça...
Ils l'identifient, ils le verbalisent.
On les amène, par exemple, très simplement. Quand j'ai pris ça, j'ai compris comment ils pouvaient avoir l'ADEP. C'est tout simplement que on les choisit parce qu'ils gagnent des courses en jeune. Ils gagnent. Donc, ils signent pro. Sauf que quand ils signent pro, ils doivent se mettre
au service
d'un leader.
D'un mec.
Et mais je vous imagine, c'est exactement ce que j'ai vécu dans l'égoïsme et l'altruisme. C'est exactement ça.
Quand tu arrêtes ton métier d'entraîneur, tu lances H-Cort.
Oui.
C'est ça.
H-Cort, c'est troche à l'envers. H-C-O-R-T, c'est H pour human, cort pour cortex, performance, donc la performance du cerveau humain.
D'accord.
Alors c'est un clin d'œil à l'anglais parce que je ne parle pas anglais,
ouais.
Et c'est un clin d'œil aussi au verlan parce que quand j'étais gamin, je parlais verlan. Voilà, donc...
Du coup, tu l'as dit, c'est le fruit d'années d'observation, etc., d'abord dans le football, dans le métier, et
puis ensuite... C'est-à-dire que depuis l'âge de 17 ans, je note tous les jours, sans exception, tous les comportements et les attitudes des gens autour de moi sur des nappes en papier, sur des serviettes en papier, sur des tickets de métro, sur des cahiers, sur des feuilles volantes. Et il y a pendant 30 ans que j'ai fait ça. Et j'ai toujours gardé ces feuilles-là. Et il y a 12 ans, j'ai repris toutes ces notes que j'avais dans des casiers et j'ai décrypté ça.
Et donc là, tu théorises, tu crées une méthode.
Avant ça, il fallait que je comprenne comment je pourrais théoriser ces choses-là. Donc j'ai... Comme j'ai arrêté l'école à 17 ans, donc pas de bac, j'ai eu l'équivalence grâce au diplôme d'entraîneur, le plus haut diplôme, le BEPF. Ouais. Et donc, j'ai pu reprendre les études à 40 ans. Et j'ai refait 6 années j'ai fait 2 années d'université à Limoges, 2 années à Dijon pour la prépa mentale, pour le management à Limoges, prépa mentale à Dijon et le coaching à Aix.
Ces années d'observation, ces notes, etc., tu peux ensuite les rassembler grâce à la formation académique.
Oui, c'est-à-dire qu'il fallait que je théorise tout ça. Sauf que je me suis rendu compte qu'avec tous ces outils que j'ai pu apprendre à l'école, dans les formations, différentes formations à l'université, ça ne me suffisait pas puisque j'avais surligné, il y a 12 ans, toutes ces notes, tous les comportements qui avaient des solutions aujourd'hui par la naissance transactionnelle, la systémique, la Gestalt, la PNL, peu importe tout ça, donc tout ce que j'avais pris. Ouais. Et je me suis rendu compte que certaines notes n'étaient pas surlignées, qu'il n'y avait pas d'outils spécifiques. Sauf qu'il y en a un qui pouvait résoudre la quasi-totalité de ces notes, de ces problématiques, c'était le bon sens.
La théorie du bon sens.
Exactement. Il y a 12 ans, j'ai travaillé sur cette fameuse théorie du bon sens, avec un, attendez, un, entre guillemets. Hein.
Non, mais voilà. Je te coupe après, tu en parles. Le bon sens, c'est ce que j'utilise souvent.
Oui.
Pourquoi ? Moi, mon skill, ma qualité principale, moi, je dis que c'est du bon sens. Enfin, c'est mon bon sens.
Yes.
Tu vois, parce que
c'est super.
J'ai pas
ce
fait.
Que tu dis.
Bah non, mais j'assume. Hein. Parce que tu peux être le meilleur que tu veux, t'as pas de bon sens, c'est compliqué. Tu te pollues. Et donc, moi, ma première skill, c'est pas ma technique, c'est pas mon agressivité. Bon sens. Voilà, c'est ce qui m'a amené là où je suis.
Alternative football.
Alors, je vais nous ramener à nouveau dans le vestiaire. Donc, chacun a son bon sens.
Oui.
Mais dans une équipe. Le métier d'entraîneur que vous connaissez bien mieux que quiconque dans cette salle, c'est que tout le monde tire dans le même sens pour un bien commun.
Ouais.
Comment on articule ça ? Comment on fait en sorte que chacun utilise son bon sens, qu'il soit confortable ?
C'est à la fois simple et compliqué.
D'accord.
Très simple, parce que vous devez transmettre un message à l'ensemble du groupe qui est entendu par tout le monde, mais que chaque individu doit prendre pour lui. C'est-à-dire qu'il se dit « Ah, ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ah, et comment ? Et chacun des joueurs, chaque unité, chaque unicité, chaque personne a entendu le message pour lui, essentiellement pour lui, en sachant très bien que l'autre à droite ou à gauche, il sait pas. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Je suis entraîneur et je dis, voilà les gars, on va jouer dans 3 jours un match de demi-finale de Coupe de France. Je compte sur vous, je sais que vous êtes investi, je sais que vous avez fait ce qu'il fallait, c'est pas le hasard si aujourd'hui on est prêt à jouer une demi-finale, je sais que vous faites pas les fous en boîte de nuit, je sais que vous allez pas pousser le chariot chez Cora ou chez Auchan, je sais que vous êtes sérieux et que vous ne faites pas de bêtises, sinon on n'en serait pas là. Donc, ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez que ça serait bien qu'on puisse se mettre au vert vendredi soir pour le match de samedi ? Voilà un discours. Vous l'avez entendu ? Qu'est-ce que vous avez retenu ?
Bah, qu'on m'implique. Moi, je fais...
Comment ? Par rapport à la décision. Ouais, ouais. Bah, c'est pas ça, le discours, il n'est pas du tout là. La profondeur du discours, c'est que j'ai vu quelqu'un pousser son chariot le jour de match chez Cora, et que je sais que qu'on a un dirigeant de chez nous a vu un joueur en boîte de nuit la semaine qui précède. Mais la finalité, c'est que je vous investis dans le fait de choisir si oui ou non. Pour autant, celui qui poussait le chariot pendant une heure ou deux dans la grande surface, il sait que je sais.
Il sait que, ouais, il sait que je parle de
lui. Et il sait que c'est lui qui est sensible. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir, quand on est manager, quand on est coach, c'est d'avoir une acrobatie mentale, une gestion des choses qui va faire que qui va faire qu'on est capable, sur un même discours, de transmettre des milliers de choses qui sont interprétées uniquement par une personne.
C'est pas plus difficile quand même quand
c'est un entraînement.
Oui, oui. Attends, Denis, j'ai pas fini la question.
Oh là là !
Non, c'est pas plus difficile quand t'es dans un groupe où il n'y a pas beaucoup de qualité. Parce que, tu vois, quand Matt pose cette question, je pense toujours au club où je suis passé. Et je trouve que c'est facile, en fin de compte, pour un manager de convaincre ses joueurs dans une grande équipe de gagner des matchs ou gagner un championnat. Pourquoi ? Parce qu'on est tous égoïstes. Donc, tu vois, donc c'est juste de dire, écoute, si on gagne, je gagne. Et c'est plus facile de motiver les mecs.
C'est vrai.
Tu vois, c'est je gagne, tu gagnes. Et donc, tu peux renégocier ton contrat et donc tout le monde est content.
Ça serait simpliste et primaire de sectoriser la facilité sur... amener des grands joueurs au plus haut niveau. Ça ne veut pas dire que... Mais on peut aussi, à contrario, amener des joueurs... Et Edouard, ce n'est pas à toi que je vais dire ça. Tu as essayé aussi, tu n'as pas toujours été que dans des grands clubs. Et tu as aussi pu te sublimer et réussir à faire des exploits.
Quand j'ai dit ça, c'est parce que c'est pour insister sur la notion d'égoïsme. Et qu'on est tous égoïstes. Oui. Et que très souvent, on dit « non, ce n'est pas bien d'être égoïste ». Objectivement, on l'est tous. Oui. On l'est tous, donc c'est pour ça. Donc il faut juste trouver, si on gagne le match, il y a souvent des entraîneurs qui disent « Les gars, si on gagne le match, ça va être bien pour un tel. » Mais dis la vérité, si on gagne le match, je suis content aussi pour moi, parce que ça a valorisé mon travail. Donc voilà, on est tous dans le même bateau. Oui. C'est juste le côté, on est égoïste, assumons. Et c'est peut-être ça déjà le lien commun déjà, on est
oui.
tous égoïstes.
Alors, aujourd'hui, on en arrive au fait que, effectivement, on peut gagner avec des grandes équipes, des grandes choses, et on peut gagner aussi avec des joueurs ou des équipes qui sont moindres, moins ouais. bonnes, et réussir. J'adorais la Coupe de France. Je suis allé 2 fois en finale, ouais. j'ai gagné, mais avec un grand club et avec un ouais, club. Ouais. Je suis allé en finale avec un club de national. Donc tout est possible en ayant battu. Bon, peu importe. Tout ça, c'est jouable. L'idée, c'est quand même de l'investissement que chacun peut avoir dans une action qu'il va mener. Et encore une fois, il n'est pas plus facile. Moi, j'ai préféré accompagner des équipes au plus haut niveau, qui avaient des individus qui avaient des qualités hors normes, parce que je trouve que c'est pas si compliqué que ça de sensibiliser les gens qui ont du caractère, qui sont hyper égoïstes. C'est pas très compliqué.
Ouais, c'est appuyer sur les bons boutons, entre guillemets, c'est ça, c'est...
Oui, mais ça, c'est le rôle du manager ou d'une personne qui va attiser tout ça.
Et justement, cette relation, ce discours, à quel point c'est compliqué de le préparer, à quel point c'est préparé, à quel point ça a trait à la spontanéité sur...
Normalement, en ce qui me concerne, 5 minutes avant de faire un discours... Pour les plus grands matchs, même pour les plus petits, peu importe, je ne savais pas ce que j'allais dire. Je me faisais confiance. Je laissais jouer mon intuition. Parce que je savais que mon intuition, c'est l'intuition, les émotions, c'est quelque chose qui ne vous trahira jamais. Parfois, elles sont fausses, mais elles diront toujours par rapport à ce que l'on est au fond de nous. C'est comme son chien, quoi. Pour dire, on peut faire confiance à son chien et à ses émotions, parce qu'eux ne vous trahiront pas. Et le chien sera toujours content et de vous voir. Et vos émotions, quand elles vous arrivent, c'est pour vous protéger. Et donc, l'intuition, c'est quelque part toute votre expérience qui vous donne une réponse à quelque chose. Quand on sait qu'on prend 35 000 décisions par jour et 99,7% de ces décisions sont inconscientes, il n'y a que 0,3% des décisions qu'on prend dans la journée qui sont conscientes. 99,7% sont inconscientes. Par exemple, le matin, vous ne posez pas la question de savoir si vous savez marcher. Vous descendez de votre lit et vous marchez. Ça, c'est une décision qui a été prise il y a un nombre d'années. Et qui vous fait sortir ce réflexe-là. Eh bien, dans le discours, pour qu'il soit sain, propre et approprié à la situation, il faut qu'il soit intuitif. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne prépare pas. Certains ont besoin de préparer longtemps à l'avance, d'autres n'ont pas cette possibilité. Toujours est-il qu'on ne peut pas tricher. Les gens entendent ou les émotions sont sur chaque mot, chaque phrase, chaque expression que vous allez transmettre.
Et est-ce que l'émotion peut aller à l'encontre de la performance ?
Bien entendu.
La colère, par exemple.
On ne va pas faire un cours sur les émotions, mais on peut résumer quatre grandes émotions qui sont répertoriées par l'analyse transactionnelle. C'est la peur, la colère, la joie et la tristesse. Toutes ces émotions, alors je fais de façon très simple.
Bien sûr. Ouais.
N'allez pas à l'encontre de ça, mais pour qu'on comprenne bien, toutes sont positives. Toutes les émotions sont positives à partir du moment où elles ne sont pas exacerbées. Trop de colère, la colère est légitime dans l'instant. Si vous avez quelque chose qui vous arrive, que vous vous rebiffiez, c'est normal, c'est dans l'instant. Si vous êtes triste, c'est pour effacer quelque part le passé et garder que l'essentiel du passé. Ou que ce qui est propre. La peur, c'est sur un événement qui va arriver. C'est donc lié au futur. Et c'est normal qu'on ait peur de l'avenir. On ne maîtrise pas. La peur, demander à chacun des joueurs, chaque sportif de haut niveau, dirigeant d'entreprise, n'importe quoi, qui n'a pas peur, c'est un mensonge. C'est un menteur. La peur est là pourquoi ? Elle est là pour vous dire, attention, dans ce genre de match, quand il y a quelque chose d'hors norme, attention, dans ce genre de match, il faut vérifier telle chose. Donc la peur, elle va vous dire, attention, mais ça ne veut pas dire qu'elle va vous freiner, c'est simplement qu'elle va vous donner des solutions aux problématiques qui pourraient arriver. Et si jamais vous n'avez pas peur avant, et que la peur vous arrive pendant l'événement, eh bien c'est la gangrène. Non seulement la vôtre, mais celle de l'équipe aussi, parce que vous allez transmettre cette peur.
Et quand on parle de peur, gangrène, oui. On pense à Paris. Je pense au PSG, c'est la question que je vais te poser, parce que tu as parlé de Clermont, oui. Combien 12-13 finales.
13 finales.
Le rugby est super équipe et tout ça, et à chaque fois, il s'écroulait dans le Money Time. On va reparler de Paris. PSG, beaucoup de joueurs, grosse équipe, et c'est récurrent. Et donc, c'est la peur. Trop de peur, ça les fait déjouer. Comment tu pourrais travailler ça ?
Est-ce que Paris est lié à la malédiction ? Je suis sûr que non. Avant que j'arrive à Paris dans les années 80, Paris n'était pas ne connaissait pas ça, puisqu'il ne connaissait pas les quarts de finale, etc.
Mais malheureusement, la plupart des gens, pour beaucoup, le PSG, c'est 2011-2010. La naissance du PSG, c'est 2012, l'arrivée de QSI.
Mais ça, c'est. Il y a eu des.
Il faut revenir.
Des steps, bien sûr. Il y a eu des étapes, il y a eu des marches, des échelons gravis entre 70 et 90 et 2010.
On les connaît.
Il y a deux décennies à chaque fois. Et à chaque fois, il y a eu des marches. Il y a eu quelque chose d'exceptionnel. C'est la création du club. Je pense qu'un deuxième élan, c'est les années 90 où le club est devenu non seulement champion pour la deuxième fois, mais aussi la Coupe de France de façon récurrente et aussi des demi-finales. Et battu deux fois le Real quand même, ouais. Deux années de suite. Aujourd'hui, on retient qu'un match sur le Real là, de cette époque, 90-93, mais c'était deux finales.
Je continue sur cet exemple-là, je suis toujours très heureux quand on parle du PSG, même si c'est pas toujours...
Mais ça, c'est un cas pratique.
Mais c'est aussi la perception des autres. Il y a Benzema hier dans l'équipe, je sais pas si vous avez l'occasion de... Si tu as eu...
Oui, bien sûr.
Il dit... Je vais citer l'extrait de l'article. Quand on a marqué, ils se sont dit qu'ils avaient perdu le match alors qu'il n'y avait que un. Ça leur arrive souvent, ils lâchent mentalement. Est-ce que la perception des autres vis-à-vis de votre comportement mental.
Mais bien entendu, c'est ce qu'on appelle la lutte d'influence interne et externe. Interne, c'est ce que tu te dis toi à toi-même, et tu dis c'est pas possible ou ça va le faire. Et il y a ce que les autres pensent de ce que tu représentes. Exemple, très bon exemple. J'ai commencé ma carrière et j'étais donc peu importe dans un club et je joue en Ligue 1. J'étais en Ligue 1, mais pas joueur, j'étais entraîneur, je débutais. Et on joue contre une équipe de 3e division à l'époque, donc de nationale, en Coupe de France. On rentre, les deux équipes, donc l'équipe de Ligue 1, où j'étais moi entraîneur adjoint à cette époque-là, et en face l'équipe de nationale, dans le couloir avant de rentrer sur le terrain. Et il y a un joueur de l'équipe adverse, qui était en nationale, qui dit ceci. Au moment de rentrer sur le terrain, il regarde les internationaux, parce qu'il y avait des internationaux dans notre équipe. Et il regarde, il dit « Oh, mais ils ont peur en face !» Un joueur de l'équipe nationale dit fortement, de façon très distincte, à ses joueurs « Putain, mais ils ont peur en face !» Résultat, l'équipe de nationale gagne. Est-ce que ça, c'est une lutte d'influence qui est significative? Il a cru comprendre qu'il y avait des émotions négatives, donc c'était bien pour lui, pour son équipe, et les autres se sont dit « Mais comment ils peuvent dire ça ?» Et peut-être qu'ils avaient peur aussi avant de rentrer.
Alternative football. Alternative football.
Dans le sport de très haut niveau, effectivement, il faut se détacher.
C'est ça. Essayer,
il faut se détacher du résultat et ça, c'est la base.
Ouais,
moi, j'étais le premier à dire ça, mais j'étais quand même sympa quand on gagnait. Mais se détacher du résultat pour aller chercher la victoire. Putain, ça, c'est pas évident à faire comprendre. Mais
Qu'il y a deux façons, au moins deux façons de faire pour atteindre un objectif, un résultat. C'est soit de ce qu'on appelle des objectifs de résultats, mais c'est anxiogène, dire il faut gagner. Mais pour certains, c'est moteur.
Ouais.
C'est moteur, que tu le veuilles ou non, certains ont besoin de ça pour se sublimer, se surpasser. D'autres
ont besoin... sur la peur.
Ouais, on agit sur la peur et faut pas qu'elle soit, et tout le monde ne peut pas sur la peur. Alors
non mais
alors
non,
tu m'interromps, Edouard, on va parler de la motivation. La motivation, il y a trois leviers. Le premier levier important, c'est la peur. La peur fait partie de la motivation. La définition de la motivation, c'est ce qui pousse à agir. La peur pousse à agir. Si tu as peur, tu agis. Ou alors comment après tu peux te soumettre, tu peux attaquer, tu peux défendre, tu peux t'échapper, etc. Toutes ces choses-là. Mais c'est un des leviers. L'argent est un levier aussi. Ouais. Mais le plus beau levier qui puisse exister, que chacun d'entre nous peut utiliser, quel qu'il soit, c'est l'épanouissement personnel.
Et ça, il l'a oublié.
Je ne sais pas. Je dis, ce sont les trois grands leviers qui sont légitimes pour...
Ça, c'était un petit commentaire.
J'ai pas compris.
Non, mais c'est...
Ce sur quoi je voudrais t'interroger, pardon, c'est pour potentiellement sortir du PSG, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est Clermont, qui est un exemple qui me fascine et dont on a parlé un peu avant d'enregistrer. Clermont, c'est donc l'ASM, c'est un club de rugby.
13 finales, une victoire.
13 finales, une seule victoire. Cette victoire arrive quand tu commences à...
10 ans après, donc effectivement, le club me demande d'intervenir parce qu'il y avait eu une agression. Mais on m'a dit, Denis, on aimerait bien ton avis.
D'accord.
Donc le club m'appelle, me dit, voilà, on aimerait bien ton avis parce que les joueurs se sont fait agresser à coups de serpette à l'issue d'un stage à Millau. Et il y en a qui sont hospitalisés. Qui ont été hospitalisés, ils ont vu des psys, ça ne s'est pas passé correctement, mais ce n'est pas parce que c'est des psys, ça ne s'est pas passé correctement l'accompagnement, et on voudrait avoir ton idée, ton avis sur comment on peut accompagner les joueurs qui ont été traumatisés par ça. Et donc je donne mon avis, je donne ce que je ferais, mais en sachant très bien que je n'interviendrai pas. Et 15 jours après, on me rappelle, dit non, Denis, on voudrait t'écouter. Donc je suis allé là-bas, j'ai discuté avec le club, avec les dirigeants. Et ensuite, quand les dirigeants ont dit au staff que j'étais là, le staff a dit « Nous, on voudrait voir aussi Denis qui nous parle. » Ok, donc j'ai parlé au staff. Et du coup, j'ai bossé avec le staff un petit peu pour donner des outils que moi, je pensais être légitimes. Et finalement, il y a des joueurs qui m'ont reconnu, notamment Wesley Fofana et puis d'autres. Et ils ont dit « Mais il ne peut pas venir pour nous aussi ?» Donc, j'ai discuté une fois avec eux ou deux. Et à la fin de saison, ils m'ont dit « Est-ce que tu veux bien travailler avec nous ?» pour obtenir ce fameux bouclier de Brennus. Moi, je veux bien essayer.
Tu n'avais rien à perdre. Non, façon de parler. C'est, 13, ouais. 13 défaites ou une de plus, une de moins. Moi, je l'aurais pris comme ça.
Non, je n'ai pas pris comme ça. Je me pose pas. Non, Edouard.
Non, promis, je suis taquin.
Ouais, je sais. Promis que ce n'était pas du tout mon truc. C'était quels sont les leviers qui vont permettre à l'équipe de sortir de là. Et donc, les leviers étaient simples. Pour moi, ce n'était pas compliqué. Hein. Ils savaient aller en finale. L'idée, c'était simplement de gagner la finale. Ouais. Donc, c'était de trouver qu'est-ce qui pouvait donner la possibilité à cette équipe de gagner la finale. Le reste, ils savent faire. Alors moi, j'aurais posé la question que j'ai dit là, en début de saison. Elle était très simple. Ils étaient une cinquantaine dans un amphi. Et je dis ceci. Je leur dis, je sais que vous êtes courageux. J'ai aucun problème avec ça. Je sais, je vous vois. Je regarde les rugbyman. Vous avez un courage monstrueux. Mais je voudrais savoir une seule chose. Je vous accompagnerai. Je veux bien aller avec vous sous une condition. Je voudrais savoir si vous êtes brave. Et là, pas de réponse. J'ai dit, moi, je veux savoir si vous êtes brave. Parce que la bravoure, ça veut dire que vous êtes capable de revenir au combat une 14e fois. C'est-à-dire, vous avez souffert, vous avez pris un pain, et revenir une 14e fois. Si vous êtes capable de revenir une 14e fois, je pense que de gagner la finale, je ne dis pas que c'est simple, mais on va mettre en place toute une stratégie tout au long de l'année pour tendre vers ça. Et finalement, il y en a qui ont dit, tu as douté? Toi, footballeur, t'as douté qu'un rugbyman puisse être brave? Non, on est brave. Un s'est levé et a dit ça, le leader. Donc j'ai dit, ok, on va travailler ensemble. Et donc on a travaillé ensemble sur, justement, comment arriver à ce résultat. Et ce résultat final, c'était de gagner la finale. Donc c'était pas de jouer, de se dire, il faut se qualifier pour telle chose, se qualifier pour l'écart, pour les demi. Non, l'objectif final, il était intégré pour tout le monde, c'était le titre, le Brennus. Et ensuite, on va mettre en place que des validations de ce qu'on sait faire. Est-ce qu'on sait gagner un match? Oui, au bout du premier match de championnat, on a gagné. Donc, on sait gagner. Est-ce qu'on sait mettre un essai? Oui, on a marqué déjà des essais. Est-ce qu'on sait faire des transformations, des pénalités? Oui, on l'a déjà fait. Et au fil des matchs, tout au long de l'année, on validait tout ce qu'on savait faire. Est-ce qu'on était capable de revenir après à la mi-temps, avoir un résultat négatif de 14 points, de moins 14? Oui, à Bordeaux-Bègle, ils ont gagné alors qu'ils perdaient de 14 points à la mi-temps. Toutes ces validations d'objectifs réalisés tout au long de l'année, qui va faire que le jour où tu joues en finale, eh bien, tu auras validé tout ce qui est possible pour gagner un match. Et finalement, le jour de la finale, ils ont gardé l'adversaire à 5 mètres de la ligne pendant 3 ou 4 minutes sans que l'adversaire puisse... Puisque ça avait été déjà validé, fait pendant l'année.
Comment tu les avais trouvés le jour de la finale? Je te dis ça, c'est parce que quand je suis arrivé à Marseille, il y avait plusieurs de... Le club, ça faisait 17 ans que vous avez pu gagner de titres. Et dans le staff, il y avait des gens qui avaient été déjà en finale de Coupe de France, notamment. Ou même l'année d'avant, les joueurs avaient fait, ils étaient dans le Money Time, ils étaient seconds, mais ils perdent des points à la fin. Et comment tu as trouvé? Moi, quand le jour de la finale de la Coupe de la Ligue, on est au petit déjeuner et je vois des mecs, même du staff, paniquer. Mais vraiment pas bien, nerveux. Et on était 4-5 qui avaient gagné déjà des choses. Et on se dit, il ne faut pas être paniqué maintenant. Et donc on leur disait, pourquoi vous êtes paniqué? Si vous êtes paniqué maintenant au petit déj, c'est compliqué quand même. Et tous, pour la plupart, étaient pas bien, stressés. Il y en avait qui prenaient jamais le petit-déj. Ils étaient là. Tu vois, c'était assez...
Tu as répondu, c'est
les attitudes, quoi.
C'est exactement ça, Edouard. Tu as répondu à la question que tu poses en sachant qu'à aucun moment, tu dois transgresser les règles qui te sont propres. Si tu changes le matin au petit-déj... Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas ancré précédemment.
Ouais, c'est ça.
Tu ne peux pas t'inventer un personnage pour gagner. C'est pas possible.
C'est exactement ça. C'est la finale. Tu vois, c'est la finale. Et aujourd'hui, c'est la finale.
Mais c'est un match qu'il faut gagner.
Avant que ce soit la finale, c'est un match. Et la différence qu'il y a, c'est que si tu gagnes ce match-là, tu soulèves un trophée, quoi. Mais quand tu réponds ça, les gens ne comprenaient pas. Ouais, mais attends, c'est pas n'importe quel match. Ouais. Effectivement, si tu gagnes ce
effectivement,
match-là,
si tu
soulèves.
Ouais. Mais si tu penses déjà avoir soulevé la coupe, c'est déjà mortel.
C'est autre chose.
Ça, c'est déjà. Pour moi, c'est pas. Je suis pas du genre à conditionner les gens à dire ben comment quelle émotion tu auras quand tu vas gagner, quel est le truc. Mais c'est très ça c'est très prépa mental. Ouais. En prépa mental, on a parfois tendance
la visualisation,
à dire la visualisation. Et moi je suis pas du tout là-dedans, mais bon après chacun son truc hein. Tout ce que je sais c'est qu'on peut pas changer ses habitudes, ses routines entre guillemets qui ne doivent pas être des conditionnements, bien entendu.
Je te préviens les auditeurs, on a eu une discussion très intéressante déjà avant le podcast, donc je vais beaucoup y faire référence, mais on parlait d'habitude, on parlait de Nadal qui met en place ses habitudes, oui. Et crée des tocs. Ça me fait aussi penser, tu sais, aux footballeurs qui rentrent sur le terrain, soit directement, seulement avec le pied gauche, ou qui se signent avant d'entrer.
Anecdote, tu veux?
Ouais, voilà, des anecdotes. Et qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de ces habitudes? Est-ce qu'il faut absolument les consolider? Est-ce qu'il faut pas? Quel est ton regard?
Non, alors, avoir des habitudes, des superstitions, des croyances, zéro problème. Mais vraiment, on est des êtres de croyance. Il est nécessaire de croire en quelque chose et d'avancer. Et cette croyance va vous permettre d'avoir des repères, d'une stabilité, etc. À partir du moment où cette croyance, ces superstitions ne vont pas à l'encontre des autres. Exemple vécu. Hein. Je suis dans un club et à l'époque, il fallait commencer le match à 20h. Tous les matchs 20h, sinon il y avait des amendes. Et les deux équipes sont prêtes à rentrer sur le terrain, la mienne et l'adversaire. Et d'un seul coup, je compte mes joueurs, il y en a 8 prêtes à rentrer sur le terrain. Il en manque 3. Il manque 3 joueurs qui sont encore au vestiaire. Le dirigeant me dit, Denis, il manque 3 joueurs, ils sont au vestiaire encore. Bon, ok, donc je vais au vestiaire, je commence à gueuler. Je dis, mais oh, vous faites quoi? Et j'en vois un qui remet ses crampons, qui revisse ses crampons. À l'époque, c'était des crampons. Ah, oui, et il commençait à revisser. Je dis, oh, il me dit, ouais, mais j'ai cassé un crampon, je suis obligé de le remettre. Je dis, ok. Et d'un seul coup, j'entends la chasse d'eau qui se tire, ouais. Et un mec était encore aux toilettes et qui m'entend gueuler, et donc il tire la chasse d'eau. Et un autre qui est en train de se recoiffer, un truc de fou, hein, qui est en train de se recoiffer, se mettre du gel dans les cheveux pour commencer le match. Donc les 3 joueurs étaient absents. Et là, j'ai piqué une violente. Et finalement, je dis, oh, vous sortez. Donc tout le monde sort. Parce que quand je gueule, des fois, c'était un peu chaud. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 joueurs-là, c'était début de saison, ces 3 joueurs-là avaient la même superstition. C'était de sortir le dernier des vestiaires. Ça veut dire que les 3 attendaient que les autres sortent. Donc là, du coup, comment sortir de ça? Parce que c'est le but du jeu, c'est pas de l'anecdote, elle est escalée. Et bien simplement, quand je les revois le lendemain matin, à froid, je vais les voir et je leur dis, voilà, j'entends bien, vous avez des superstitions, il y a zéro problème. Mais vraiment, aucun problème, vous pouvez être superstitieux, croyant. La seule chose que je vous demande, c'est maintenant, comme c'est problématique pour l'équipe, le club et pour tout le monde, on va... Maintenant, vous allez sortir avec tout le monde. Et si vous perdez, si on perd, et si vous êtes mauvais surtout, vous direz que c'est de ma faute. Si le fait que vous soyez sorti avec les autres et que vous faites un mauvais match, vous direz que c'est de la faute de Denis Troche, notre entraîneur, parce qu'il nous a obligés à sortir. De ce fait-là, il n'y a plus de superstition. Et on est allé quand même, c'était une équipe de nationale. Cette année-là, on va finale de Coupe de France, quart finale de Coupe de la Ligue, et on monte de nationale en Ligue 2, la même année, avec ces joueurs qui étaient superstitieux.
T'avais des superstitions, toi, d'ailleurs? Est-ce que t'avais des petites... On rentre dans l'intimité du joueur Edouard Cissé.
Au début de ma carrière, ouais. j'avais des superstitions. Tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai pas fait de centre de formation. J'arrive, ah, oui. Et j'arrive au parc. Et je vois des super joueurs qui avaient des superstitions. Donc, qu'est-ce que tu te dis? Putain, si eux, ils ont des superstitions, il faut que j'en ai. Hein. Pépito, il peut pas se permettre de pas en avoir.
Cette gauche toujours, il faut trouver un truc.
Donc, j'ai essayé. Tu vois? Mais après, très vite, je me suis dit, bah, arrête, conneries, c'est pas possible. Non, j'en avais pas. Puis après, il y avait Paul Le Guen. Paul, il en avait quelques-unes. Je dis, mais Paul, t'as des superstitions? T'es superstitieux? Non, je suis pas superstitieux. J'ai des habitudes qui rassurent. Tu vois la subtilité, mais bon.
Effectivement, les habitudes qui rassurent, c'est légitime. Mais les superstitions, elles ne doivent pas aller à l'encontre, encore une fois, aller à l'encontre des autres. Si c'est de mettre toujours tes chaussettes sans les laver et que ça pue dans les vestiaires, c'est compliqué pour les autres. Donc tu vas à l'encontre des autres.
Mais parfois, ça va à l'encontre de toi-même aussi.
Mais bien sûr.
Il y a des mecs,
toujours,
parfois.
Souvent, pas toujours, mais souvent.
Dans certains clubs, tu vois, on va au match ensemble. On est à Marseille. J'amène un joueur dans ma voiture et il y a des bouchons. Donc on est obligé de prendre notre chemin. Il me dit non, on passe pas par là. Je dis mais pourquoi? Non, c'est pas grave. Je dis mais sinon on arrive en retard. Ah, on arrive en retard, c'est pas grave. Je dis mais t'es malade ou quoi? Non, je te jure. C'est pas grave, on va arriver comme il faut. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Il a rien osé me dire parce qu'il se trouvait un peu bizarre. À la fin du match, il fait un mauvais match. Il dit, ouais, mais tu sais pourquoi ? C'est parce que à chaque fois, je dois passer par là, parce que ceci, ou parce que cela, ou parce que ceci, ou parce que cela. Bon, après, je lui ai expliqué, arrêtez quand même. T'as été mauvais parce que t'as été nul, parce que t'as raté ça, ouais. T'as raté tes contrôles, t'as pas marqué.
T'as raison. Hein. Mais c'est très difficile pour quelqu'un de chasser une croyance à l'autre. C'est très difficile. Parce qu'il faudrait déconstruire les croyances. Moi, je vais vous donner une croyance qui est la mienne, qui a été la mienne pendant des années et des années. La croyance était, je vais faire entre guillemets croyance, c'était une phobie. J'ai fait une phobie, la phobie des grenouilles. Personne n'a peur des grenouilles. Hein. Je dois être un, pas des seuls au monde, mais il y a très peu de personnes qui ont cette croyance d'avoir peur d'une grenouille, à tel point que s'il y avait une grenouille ici, mais vous ne m'auriez jamais fait faire ce podcast. Hein. L'idée, c'est de savoir que ça, on ne peut pas contrôler. On ne contrôlera pas ce type de croyances qui sont des phobies. C'est très difficile. Donc, il est nécessaire de déconstruire tout ça pour pouvoir... Et il y a une chose qui est pas mal, que depuis, j'utilise, c'est que par exemple, moi je dis, j'ai peur des grenouilles, est-ce qu'il y en a qui ont peur d'autres choses ? Donc il y a des serpents, des araignées, des rats, des trucs comme ça. Je veux dire, moi écoutez, s'il y a une araignée, alors le mec il dit non, je rentre pas. Je dis ok, donc je prends la personne avec moi, et je lui dis, écoute, moi des araignées, j'ai pas peur, j'en ai chez moi, je fais l'élevage d'araignées, j'ai des araignées, je les prends comme ça, j'ai aucun problème. Je dis, mais est-ce que t'as peur des grenouilles, toi ? Bah, les grenouilles, les petits trucs verts là, qui peuvent pas croire, bien sûr que non. Je dis, mais attends, est-ce que t'es capable, s'il y a une grenouille dans la salle, de la choper ? Ouais. Il me dit, bah Denis, bien sûr, mais t'es sûr et certain ? Il me dit, oui. Je lui dis, écoute, moi je t'assure que s'il y a une araignée, je la prends sans aucun problème. Et grâce à la connivence, grâce au fait qu'on fasse confiance à l'autre, sur quelque chose, on peut être dans une salle où il va y avoir une grenouille et une araignée. Alors que jamais seul on aurait pu y être. C'est ça la force d'une équipe, d'un binôme et d'une équipe. C'est de pouvoir transmettre quelque chose sans que l'autre puisse avoir un jugement. C'est quelque part se dire, ok, on est ensemble et on va aller ensemble. C'est ça, et aller au plus profond. Et c'est là-dessus qu'il est nécessaire d'avancer. T'as beau être le meilleur du monde, il y a des croyances, il y a des choses qui t'empêcheraient de pouvoir le faire seul. C'est pour ça qu'il y a des sports d'équipe.
Alors, on arrive bientôt au bout de notre temps à partie. J'ai encore néanmoins deux questions que j'ai très envie de vous poser. La première, c'est à tous les deux. S'il y avait un mec, un joueur que vous avez côtoyé, que vous considérez comme une référence au point de vue du mental, ce serait qui ? Est-ce que ça existe ? Est-ce qu'on peut être une référence mentale dans un groupe ? Et si vous l'avez rencontré, je serais très heureux de connaître son nom.
Tu commences, Denis ? Non, c'est moi, comme ça tu finis.
Il est stratégique, Edouard.
Il voulait prendre le même.
Le milieu de terrain, voilà. Ouais, non, moi je vais avoir le temps de réfléchir, donc je vais la mettre à Denis.
De suite, parce que quand t'as posé la question, j'allais dire moi.
Ouais.
Moi-même.
Ouais.
Après, mental, par quoi ? Parce que moi j'ai rencontré des joueurs qui étaient, on disait mentalement forts, mais ils étaient drivés seulement par la peur ou par la colère. Et après, ils n'étaient pas apaisés. Pour moi, un mec qui est fort mentalement, c'est qu'il est tout le temps apaisé. Il arrive à être performant quand il faut, il arrive à être apaisé. Et j'en ai jamais rencontré, vraiment. Comme j'en ai jamais rencontré, j'ai essayé toute ma carrière d'être ce mec-là. Donc, ta question, humblement, modestement, ou alors avec le teston, je dis que c'est moi.
Ça me plaît beaucoup.
Si, mais c'est très juste ce que dit Edouard, mais j'aurais pas dit Edouard, désolé.
Non, c'est pas trop.
Parce qu'on n'a pas, vécu ensemble. Je vais biaiser, je vais dire deux joueurs. Un des deux, Rai, charismatique. Il a été critiqué en arrivant, c'est devenu ce qu'on sait de la personnalité. Et le deuxième, qui est celui qui m'a touché, qui m'a interpellé, qui m'a fait réfléchir énormément, c'est un joueur qui s'appelle Ricardo, défenseur central du PSG quand j'y étais, qui était entraîneur.
Top, ouais, ça.
Et pourquoi ? C'est hyper simple. Quand il était joueur, il n'avait pas besoin de parler, il rayonnait de ce qu'il était. Et quand tu voyais les joueurs autour de lui, que ce soit Comboiré, Roche, qui étaient défenseurs centraux et qui étaient présents, eh bien, quand ils étaient à côté de lui, ils étaient bons. Ouais. Quand ils sortaient de la zone, que ce soit à l'entraînement ou en match, ou que le joueur Ricardo n'était pas là, c'était pas du tout le même comportement. Et je dis ça, c'est le summum de la transmission, c'est le rayonnement. Être capable de transmettre quelque chose qui t'appartient sans le dire. Simplement par l'aura que tu dégages. Et j'ai rencontré très peu de personnes comme ça. Et lui en fait partie.
Ça me plaît parce que, très égoïstement, on parlait de les trois joueurs sont des joueurs du
Paris Saint-Germain. Oui, c'est vrai.
On sur la patte.
Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas le hasard s'ils ont joué au Paris Saint-Germain.
Une dernière chose.
Oui.
On a de plus en plus de gens qui écoutent Alternative Football et on vous en remercie. On est très heureux. Et du coup, on va vous demander de passer sur Apple Podcast, Apple Music ou Spotify pour aller noter et commenter le podcast si le cœur vous en dit, et on vous en serait très reconnaissant. Merci encore Denis.
Merci Monsieur à vous tous.
Denis, merci.
Merci Mathieu, merci Nathan, tout le monde.
Top encore,
et à très vite.
Alternative Football. Alternative Football.
Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.